Au quotidien, avec Clotilde Seille.
C'est reparti, c'est toujours Clotilde Saille en votre compagnie pour vous faire la lecture des journaux jusqu'à midi. Je vous rappelle que c'est en reprise, il va falloir que je me mette ces heures-là dans la tête. Ça change à toutes les saisons, me semble bien que c'est 18h30 et 23h. Mais là, je sens que mon ami Martin Dupuis va se garrocher sur l'ordinateur en bon français pour me dire « mais je pense que c'est ça, 18h30 et 23h, me semble, enfin bon. » Écoutez, nous sommes à la... Oui, c'est bien ça. Yes, je l'ai eu. Nous sommes à la une du journal de Montréal où il n'est pas question de l'Écosse. Il n'en sera pas encore question dans cette prochaine demi-heure parce que je réserve cela pour le début de la deuxième heure. Il y avait tellement de papiers sur le sujet... que voilà, j'ai décidé de faire un tir groupé. Donc, pour le moment, je vais aborder d'autres sujets. Alors, à la une du Journal de Montréal, on les voit, ils sont en forme et d'attaque, ces 64 joueurs qui se présentent au camp du CH, au camp du Canadien. Et puis, le gros titre, eh bien, c'est ce gaspillage, 120 millions de dollars gaspillés en Europe. C'est apparemment ce que l'Auto-Québec aurait perdu en essayant d'implanter je ne sais quoi dans les casinos français. C'est une aventure qui leur a coûté excessivement cher. Alors, dans le Journal de Montréal, j'ai entre autres une chronique pour vous dont je vous lirai la deuxième partie. C'est la chronique de M. Jean-Jacques Sanson qui écrit « C'est parti, la bureaucratie dans chaque ministère est victime du syndrome de Stockholm ». Il écrit « M. Sanson, j'ai écrit à quelques reprises que les supposées coupures annoncées ces dernières années et depuis l'arrivée au pouvoir de Philippe Couillard n'avaient pas encore été prises au sérieux ou n'avaient pas encore fait vraiment mal. Je m'appuyais sur le fait que ces annonces d'intention de couper n'agitaient aucunement la haute fonction publique. Ce n'est plus le cas. Les manchettes sur l'examen des économies à faire dans la politique familiale du gouvernement du Québec, l'une des plus généreuses au monde, n'étaient pas des ballons d'essai du Conseil du Trésor. Il connaît déjà la force du vent. La bureaucratie dans la structure de chaque ministère est victime du syndrome de Stockholm et se porte à la défense de ses programmes et de ses clientèles. Qu'elle alerte des menaces qui planent. Il arrive aussi fréquemment qu'elle refile des informations aux partis d'opposition qui deviennent autant de munitions pour mettre le gouvernement dans l'embarras et ameuter les groupes de pression. Des ministres tombent même souvent dans le piège et surtout lorsque ces mêmes clientèles leur font sentir qu'elles mesureront son efficacité et son influence à la table du Conseil des ministres à l'aune de la protection de ses budgets. C'est parti! Les médias seront grassement nourris au cours des prochains mois. Ah, ben voilà, Clotilde, elle est contente. Il va y en avoir du stock à l'émission le matin. Nous sommes dans le Journal de Montréal en ce 19 septembre et Sophie Durocher écrit ce papier au sujet d'un documentaire qu'on va voir lundi prochain à 20h, me semble-t-il, sur Télé-Québec. Et c'est une entrevue exclusive de Joselito Michaud avec Pauline Marois, mais qui ne contient pas, nous dit Sophie Durocher, de révélations choc. Pas un mot sur PKP, rien sur le deal, pas de mention de la charte. Mais cette entrevue d'une heure nous révèle un aspect de la personnalité de l'ex-première ministre. Elle est incapable de reconnaître les raisons de sa défaite. Joselito Michaud a clairement réalisé une entrevue humaine et non politique avec Pauline Marois. Il évite les sujets chauds et ne l'aborde jamais de front. Et c'est justement parce qu'elle se sent en confiance que Mme Marois lance des phrases qui nous laissent « Pantois, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé ». Répète-t-elle à plusieurs reprises et sous différentes versions à Joselito à propos du 7 avril 2014. Joselito, en conférence de presse, après le visionnement, hier, avait une explication. Lui qui a fait des dizaines d'entrevues avec des endeuillés et écrit un livre sur le sujet rappelle que ceux qui vivent un deuil traversent plusieurs phases. Peut-être que Mme Marois est tout simplement encore dans la phase de déni. Dans l'entrevue, Madame Marois déplore qu'on ait beaucoup attaqué son mari quand elle était au pouvoir, alors que, dit-elle, personne ne s'en prend jamais aux femmes de Premier ministre. J'aurais bien aimé, dit Sophie Durocher, que José Lito lui réponde. Les femmes de Jean Charest ou de Lucien Bouchard n'ont jamais été à la tête du Fonds de solidarité de la FTQ ou de la SGF. Votre mari n'est pas un conjoint comme les autres. Après l'entrevue « Bonbon » accordée à Yves Dégagné dans le cadre du documentaire, la première, Madame Marois, accorde une entrevue « Doudou » à José Lito. Espérons qu'elle aussi, un jour, elle aura le courage de s'asseoir face à des intervieweurs politiques qui vont lui brasser la cage. Sur le même sujet, Richard Thérien écrit une chronique également, mais c'est pour Le Soleil cette fois-ci. Et il nous dit que l'ancien animateur dont prend toujours un train pour la vie n'a d'ailleurs jamais eu l'intention de coincer Madame Marois avec des questions corsées. Lui, il propose, Richard Thérien, il dit « On comprend vite de toute façon qu'une telle entrevue n'aurait jamais eu lieu. Si je lui avais parlé de la charte, elle aurait repris la cassette de politicienne. Je laisse ça à des spécialistes », a dit José Lito Michaud. José Lito la voulait depuis 2 ans et demi, captant des images des grands événements qui ont marqué sa vie politique. Après avoir essuyé plusieurs refus, l'entrevue a finalement été tournée le 10 septembre dernier au domicile de l'animateur. Après la défaite, elle a cessé de regarder les nouvelles, s'est remise à cuisiner et à voyager. Elle affirme que les 3 mois qui ont suivi ont été très durs, qu'elle se réveillait en pleine nuit pour refaire le fil des événements, elle qui n'a jamais souffert d'insomnie. Mais elle assure ne jamais avoir sombré dans la déprime grâce à cette force intérieure très grande qui l'a guidée durant toute sa carrière politique. L'entrevue est entrecoupée d'extraits que commente Pauline Marois, notamment de nouvelles images des coulisses du Métropolis le soir de l'attentat, plus parlantes que celles du décevant documentaire d'Yves Dégagné, la première. Durant le discours de Madame Marois ce soir-là, José Lito devait se trouver du côté de la scène où les balles ont été tirées, mais les gardes du corps l'ont prévenu qu'il verrait mieux de l'autre côté. Il remercie le ciel encore aujourd'hui pour les avoir écoutés. On ne sent pas que Pauline Marois deviendra une belle-mère du Parti québécois, un rôle manifestement réservé aux hommes qui l'ont précédée. Elle ne désire formuler aucun commentaire sur la course à la chefferie. « Je vais jouer les gérantes d'estrade dans mon salon et ça restera dans mon salon », dit-elle. À propos de la dernière campagne du PQ, elle regrette parfois de ne pas avoir suivi son instinct au lieu d'écouter ses conseillers. Les Québécois ont eu peur qu'on leur pose une question, dit-elle, à propos de la peur du référendum entretenu par les libéraux. Elle continue de croire que la présence des 3 ténors, Drainville, Lisée et Péladeau, au micro, avant son discours de défaite, était une bonne idée. À la une du Soleil ce matin, le gros titre est consacré à Mommy sur les planches du palais. On voit Monsieur Dolan et les principaux comédiennes et le comédien de ce film qui a été présenté donc au Palais Montcalm hier. Et puis, dans le Soleil, on revient beaucoup sur l'éventuelle fermeture des conservatoires. Ça a vraiment était comme un cataclysme sur le milieu de la musique, mais aussi du théâtre. Et le pianiste David Gelbert, entre autres, était complètement consterné. On le voit d'ailleurs en photo ici. Et il dit qu'il ne serait jamais devenu pianiste de concert si ce n'était du conservatoire de musique de Rimouski. Il a tenu à écrire personnellement à la ministre Hélène David dès qu'il a su qu'on s'apprêtait à sacrifier les 5 établissements régionaux du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. « La nouvelle me consterne », affirme le musicien. « Je ne serais pas qui je suis sans passer par le Conservatoire de Rimouski. Il y est entré à 9 ans et à 14 ans déjà, il avait réussi des cours de baccalauréat. » Étant maintenant professeur agréé et coordonnateur du secteur musique de chambre à l'Université d'Ottawa, il est à même de constater que les conservatoires forment des musiciens hautement aguerris par rapport aux autres écoles de musique. Le réseau des conservatoires est quelque chose qui différencie le Québec des autres provinces, qui augmente le niveau d'excellence de nos orchestres et de nos musiciens sur la scène internationale, souligne-t-il. Marc Hervieux aussi s'exprime sur le sujet. On trouve ça également dans les pages du Soleil, mais également du Nouvelliste et du Quotidien. C'est seulement quand nos artistes se produisent sur les scènes internationales qu'ils reçoivent une tape dans le dos, que le public est fier. Pourtant, ce n'est pas à cette étape-là qu'on en a le plus besoin. C'est lorsqu'on étudie et qu'on développe notre talent, dit Marc Hervieux, qui a étudié le chant au Conservatoire de musique de Montréal. Il ajoute qu'auparavant, l'accès au conservatoire était gratuit pour les étudiants choisis. Il faut la bâtir, notre fierté, dit-il. Le chanteur de formation classique s'étonne de la multiplication des abus du gouvernement. Je comprends la période de compression, mais quand on voit les abus de fraude du docteur Arthur Porter, par exemple, qui se chiffre à 22 millions, on pourrait lui demander un chèque pour combler notre petit 14 millions de déficit, non? C'est une question de priorité. On n'aura peut-être plus de dettes, mais on va être con, dit Marc Hervieux. James Darling, violoncelle solo de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, directeur musical de l'Orchestre des jeunes du Québec, maritime et professeur de la classe d'orchestre au Conservatoire de musique de Rimouski, fait observer que pour l'instant, c'est la mobilisation et l'action avec des soutiens de taille comme Yannick Nézet-Séguin qui comptent. La grande question est de savoir quel Québec on veut pour notre avenir. Un groupe d'une dizaine d'étudiants rencontrés hier spontanément devant le conservatoire s'est dit prêt à aller manifester à Québec. Si on suit le raisonnement de ce projet de fermeture du conservatoire parce qu'on est en région, on fermerait l'Université du Québec à Rimouski, ça n'a pas de bon sens, se demande l'étudiant Vincent Simard. Régis Labaume, qui était à Matane hier, s'est aussi prononcé sur l'annonce. Concernant la fermeture des conservatoires, c'est quand on a peur de perdre quelque chose que ça permet de se mobiliser. Il serait encore trop tôt pour voir une mobilisation des artistes contre ces fermetures. Marc Hervieux parle plutôt sur un événement qui aura lieu le 15 octobre au Conservatoire de Montréal pour voir les artistes monter au front. Il y a aussi des caricatures, par exemple Badeau dans Le Droit. Sa caricature est en deux parties. Il y a avant les compressions, où l'on voit une partition de musique, et donc toutes sortes de notes, évidemment, sur des portées musicales. Et en dessous, on retrouve les mêmes portées, mais il n'y a plus de notes dessus. Les portées sont absolument vides. Et puis, une autre caricature aussi, celle de Garnotte dans Le Devoir. Nous sommes avec Hélène David au conservatoire. Madame David a un violon sur l'épaule. Elle est devant une partition. Elle a un grand sourire et elle dit « Concerto pour violon en si mineur sur une partition de Maestro Coiteux. » Et à la place de son archet, elle a quoi? Une scie. À la une du Droit, maintenant, 19 septembre 2014, Roger Fleury et 5 autres personnes arrêtées. Les Autochtones lèvent le camp. Ça, c'était ceux qui qui faisaient des travaux. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Ce sont des autochtones, ça, qui étaient sur la rue, quartier. Et ça faisait des semaines et des mois que ça traînait. Donc, finalement, ils ont été arrêtés. Et puis, on se demande aussi, mais où va Gatineau? Et c'est sous la plume de Pierre Bergeron dans Le Droit ce matin. On ne peut remettre en question la qualité du document présenté par le maire Maxime Pedneau-Jobin sur les orientations, les priorités et les actions du conseil municipal de Gatineau pour les mois à venir. L'édifice est construit sur 6 grandes orientations, leadership, gestion, identité, démocratie, économie et environnement, qui se déclinent en 36 actions ou résolutions adoptées par le conseil. Le maire, dit Pierre Bergeron, a le mérite de nouer ses priorités sans laisser trop de fils qui dépassent. Tout y est. Et c'est peut-être là que le bât blesse. Il y en a tellement, et pour tous les goûts, qu'on n'arrive pas à identifier les priorités. Ce que le contribuable veut vraiment savoir, ce qui lui en coûtera pour ses services de base. Ce que le passager veut savoir, c'est le temps qu'il lui prendra pour se rendre au travail. Ce que le locataire veut savoir, c'est la disponibilité de logements de qualité. Ce que l'automobiliste veut savoir, c'est la qualité du réseau routier qu'il emprunte. Ce que le cycliste veut savoir, c'est la disponibilité de pistes et de sentiers qui lui donneront une alternative au transport traditionnel. L'artiste veut savoir s'il pourra exercer son art dans sa ville. L'entrepreneur s'attend à ce que le processus d'approbation de ses projets soit simple et cohérent. Tous se fichent pas mal de la démarche de réactualisation de l'offre de services en vue d'établir les priorités à la linéa 6 de la résolution 3 de l'orientation 2. Je peux comprendre. Tout cela dépasse la capacité des citoyens de se faire une idée claire de la destination sans trop savoir le prix du billet, en autant qu'on aura fait un beau voyage. Kathleen, Rob, Doug et compagnie, c'est Julie-Anne Lamoureux qui s'exprime aussi dans Le Droit ce matin. Le maire de Toronto, Rob Ford, nous a habitués à de nombreux revirements au fil des ans. Il a frôlé la destitution, il s'est montré ivre en public à plus d'une occasion, il a avoué avoir consommé du crack lors d'une soirée arrosée, entre autres. Dans un scénario invraisemblable, il nous a offert un nouveau coup de théâtre tout récemment. Celui qui s'est accroché au pouvoir dans la dernière année s'est retiré de la course à la mairie à la toute dernière minute en raison de problèmes de santé. On sait maintenant qu'il souffre d'un liposarcome malin, un cancer rare et agressif qui se développe dans les tissus adipeux du corps. Il entame ces jours-ci des traitements de chimiothérapie. Personne n'est insensible à ce genre de drame. Les politiciens de toutes allégeances lui ont souhaité la meilleure des chances. Les candidats à la mairie de Toronto, John Tory et Olivia Chow, ont annulé un débat mercredi soir par respect pour la famille Ford. Mais dans les faits, la course se poursuit et l'enjeu est majeur, diriger la plus grande ville de l'Ontario et du Canada. Après des années troubles sous Rob Ford, les libéraux de Kathleen Wynne surveillent de près la situation et du même coup la candidature du grand frère, Doug, qui a pris le relais. Ce n'est pas un secret pour personne. La première ministre et Doug Ford n'ont pas beaucoup d'atomes crochus. Disons que les familles Wynne et Ford ne font pas des détours pour se croiser. Malgré cela, la première ministre disait cette semaine ne pas avoir l'intention de prendre position dans la course à la mairie. Elle dit être prête à travailler avec tous ceux qui seront élus le 27 octobre lors des élections. J'ai perdu ma ligne. Voilà, lors des élections municipales, point. Ça inclut donc Doug Ford et si on suit la logique du discours. Mais une chose est certaine, aucun libéral ne souhaite revivre les tensions de la dernière année. Ministre, député, premier ministre, ils ont tous dû à un moment donné se repositionner en ce qui a trait à la saga Rob Ford. Un terrain miné, délicat, que tous ont tenté de fuir. Donc, la première ministre ne prend pas position, mais ses ministres ont le loisir de le faire. Les récents sondages laissent croire que Doug Ford tirait de l'arrière dans les intentions de vote. Depuis le lancement de sa candidature, il n'a pas fait campagne en raison des problèmes de santé de son frère. Mais si le passé est garant de l'avenir, les Ford ont prouvé que tout est possible, qu'il ne faut pas les sous-estimer et qu'en politique, une semaine est une éternité. Imaginez, il reste un peu plus de 5 semaines avant le jour du vote.
Ain't no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. And he's always gone too long. Any time he goes away. kept warm when he's away. In no sunshine when he's gone, and he always gone too long. Anytime he goes away, wonder this time where. But ain't no sunshine when he's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when he's gone. And this house just ain't no home. Anytime he goes away.
À la une de la Tribune, ce matin, un lieu de mémoire, la ville de Magog dévoile un projet de 3,5 millions de dollars pour la maison Mary. Et puis dans la Tribune, je retiens pour vous ce papier, cet édito signé Maurice Cloutier au sujet de l'erreur politique que vient de faire Carlos Letao. Du moins, c'est l'avis de M. Cloutier. Il écrit « Le ministre des Finances du Québec, Carlos Letao, est peut-être doué sur le plan des finances publiques, mais il a démontré un manque évident de sens politique et d'expérience mercredi. Il s'est carrément mis les pieds dans les plats sur le sujet délicat des impôts. Rabroué par son chef, il a fait marche arrière en catastrophe en fin de journée hier, en moins de 24 heures. Sur le plan de l'image et de la cohésion dans l'action, c'était une très mauvaise journée pour le gouvernement. Lors d'une mêlée de presse mercredi, M. Letao a eu la très mauvaise idée de spéculer sur la récupération possible selon différents scénarios hypothétiques de l'espace fiscal que libérera le gouvernement conservateur. Lundi, Stephen Harper a promis de réduire le fardeau fiscal des Canadiens en 2015 parce que les conservateurs auront des surplus budgétaires et se retrouveront en pleine année électorale. Le ministre des Finances a même eu le culot de dire que le fardeau fiscal des Québécois resterait alors le même et qu'on ne pourrait pas considérer cela comme une hausse des taxes ou des impôts. Après avoir mis le feu, le ministre des Finances a voulu jouer aux pompiers hier. À la fin de la période des questions, il a présenté une motion pour proclamer que les libéraux ne veulent pas occuper l'espace fiscal que le gouvernement Harper pourrait libérer. Il a sûrement dû s'excuser auprès de son chef, écrit Maurice Cloutier. Le gouvernement Couillard doit d'abord faire un ménage dans plusieurs secteurs pour trouver les 3,2 milliards de dollars manquants pour le prochain budget. Envisager plutôt une forme de hausse de l'impôt au Québec est déjà un argument que serviront plusieurs groupes de pression pour réduire les coupes prévisibles. Le ministre Letao était en train de dire aux Québécois que les compressions importantes n'étaient peut-être pas incontournables. Où avait-il la tête? À la une du quotidien, on parle de 75 millions de livres. Mais de quoi parle-t-on de livres de papier qui se lisent? Non, pas du tout. On parle du poids. 75 millions de livres en poids. C'est une récolte record pour les bleuets. C'est de cela dont on parle. L'or bleu du Saguenay. Et le gros titre, c'est qu'on nous dit que Yamgold souhaite obtenir 500 millions de dollars US pour la mine Niobec de Saint-Honoré, qui est à vendre. Claude Villeneuve, assez régulièrement, vous le savez, on lui doit des chroniques écologiques. Voilà quelqu'un qui s'inquiète, voilà quelqu'un qui brandit le drapeau de la peur, évidemment, sur les changements climatiques et encore plus, encore de plus en plus, je dirais, depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et là encore, aujourd'hui, il nous dit dans le quotidien toujours plus de CO2. La semaine dernière, le bulletin annuel sur les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre de l'Organisation météorologique mondiale a annoncé que l'année 2013 a montré la plus forte progression des dernières décennies en ce qui concerne la concentration de dioxyde de carbone. Le CO2 et le CO est le plus important gaz à effet de serre responsable de deux réchauffements du climat planétaire observés depuis les années 70. On peut trouver les détails, nous dit-il. Ah là, il y a un site internet qui est long comme le bras. Comment pourrais-je vous le résumer? Non, on va éviter ça, sinon vous allez me détester, c'est clair. Alors, il dit toujours, Monsieur Villeneuve, que ce triste constat met la table pour le sommet des chefs d'État convoqué à New York la semaine prochaine par le secrétaire des Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon. Malgré les grandes conférences internationales qui se succèdent et les rapports du GIEC qui reflètent l'évolution du consensus scientifique depuis 1990, le problème continue de s'aggraver de plus en plus vite et personne ne semble capable de mettre un frein à cette progression destructrice. Dans mon livre « Est-il trop tard ?», le point sur les changements climatiques publié l'an dernier, j'ai fait, dit M. Villeneuve, la démonstration que la cible de limiter la progression de la température planétaire à moins de 2 degrés Celsius est d'ores et déjà une cause perdue. Les chefs d'État réussiront-ils à entendre la voix